Bonjour très chers auditeurs, Catherine, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette émission mensuelle autour de la santé, dans la bonne humeur. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, tout un dossier autour de la gémothérapie. Puis Samuel nous parlera dans sa chronique de l'intelligence de la nature. Puis j'ai aimé un ouvrage, La psychogénéalogie, de Véronique Gérard-Kortulewski. Je vous en parlerai. Et pour terminer, truc et astuce, renforcer son système immunitaire. Mais tout de suite, notre chroniqueuse adorée Margot, autour du périnée. Bonjour Margot.
Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle chronique sport avec un sujet dont on parle peu fréquemment, il s'agit du périnée. Donc à toutes les femmes qui nous entendent aujourd'hui, nous allons parler de comment bien prendre soin de son périnée pendant l'effort. Alors, périnée et sport, c'est vrai qu'il faut être prudent lorsque l'on va pratiquer une activité. Certaines activités vont avoir plus de répercussions que d'autres au niveau de cette zone, donc au niveau du bassin. Par exemple, les activités où il y aura beaucoup de sauts et d'impacts répétés peut augmenter la pression intra-abdominale. Et cette pression se répercute au final sur le périnée, ce socle inférieur de notre abdomen. Donc, lorsque ce socle est soumis à des pressions accrues, le périnée finit par ne plus bien jouer son rôle de fermeture et le risque est souvent la survenue d'une incontinence à l'effort pendant le running ou pendant l'activité sportive. Donc, ne vous inquiétez pas, il y a vraiment des petites choses à faire très simples pour éviter ce genre de désagrément. Il n'est bien sûr pas question d'arrêter le sport, hein, qui est très bénéfique à la santé, on le sait, mais simplement il faut adapter son entraînement et sa pratique aux particularités de l'anatomie féminine. Donc pour cela, le mieux est d'adopter ces trois réflexes. Écoutez bien. Donc tout d'abord, premier réflexe, je verrouille mon périnée. Hein, régulièrement, durant la séance de sport et systématiquement avant de sauter, soulever un poids, se baisser, on pense à verrouiller son périnée. Donc en pratique, hein, souvent on dit que on va contracter son entrejambe comme si on voulait se retenir d'aller faire pipi. On veille également à corriger sa posture en basculant son bassin vers l'avant et en visant un étirement de la silhouette vers le haut. Donc en gros, on évite de se tasser et on se grandit. Soyez fiers, poitrine haute et colonne bien alignée. Deuxième réflexe, on fait les bons abdos. Alors les abdos en salle de sport, en cours du fitness, ça se voit moins qu'avant, mais il y a encore beaucoup d'exercices où il y a un rapprochement donc des abdominaux et où on va pousser le diaphragme vers le bas et avec lui malheureusement tous les organes du petit bassin qui à leur tour vont appuyer sur le périnée. Donc c'est tous les exercices hyper pressifs hein, qui vont rapprocher les abdos l'un vers l'autre, le type crunch. Donc ça, c'est vraiment des exercices à éviter et il va falloir plutôt privilégier des exercices de gainage tels que la planche et travailler ses abdominaux en contractant le périnée, puis les abdos, toujours sur l'expiration, en soufflant doucement et en rentrant le ventre. Voilà une de mes consignes primordiale lorsque je fais faire des abdos, c'est-à-dire que à l'expire, vous allez rentrer le ventre, contracter vos abdos et serrer le périnée. Très important. Dernier réflexe, je muscle mon périnée parce qu'une sangle périnéale tonique et c'est la meilleure prévention. Donc on prend l'habitude de le faire, travailler régulièrement 3 à 5 fois par jour, voire même plus hein, si vous avez le temps, dans le métro, dans la file d'attente du supermarché. On serre son périnée de l'anus vers le pubis en faisant attention à ne pas contracter ses abdos. Et l'on maintient la contraction quelques secondes seulement. Donc cette tonification de la sangle périnéale va permettre aussi d'améliorer vos performances sportives car on va muscler en profondeur et on adopte une meilleure posture pendant la pratique. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous aideront au quotidien pour améliorer votre sport et vous sentir mieux au quotidien. Je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve le mois prochain.
Merci Margot pour tes précieux conseils. Donc, si vous venez de nous rejoindre, Catherine, pour À votre santé, notre émission mensuelle autour de la santé au naturel. Et avant de retrouver la gémothérapie dans notre dossier, une petite pause musicale avec Oshi, ta marinière.
Derrière ta cigarette, de mon cœur, t'as fait un tabac. Je suis en quête du bonheur, peut-être qu'il est dans tes draps. T'as piraté mon âme, alors que je surfais sur la vague. Et j'ai tout raté, je rame, alors que je t'avais dans ma madrague. Enlève tes bas ou tes hauts, t'es si jolie, tu me rends dingue. Je rêve que tu viennes sur mon bateau, que toutes les nuits on passe la bringue. À bâbord ou à tribord, on partira à la dérive. Je veux ton corps, mon trésor, je t'attends sur l'autre rive. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous te sais pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous te sais pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. L'océan nous emporte, mais je sais pas si t'es au courant. Que lorsque l'on passe ma porte, même si c'est la carte assez marrant. Viens dans mon équipage, rattrapez-moi sur la jetée. On fera sûrement naufrage, mais on aura au moins essayé. Donc si aujourd'hui je plonge dans l'amour en criant à l'abordage, c'est parce que je prolonge mon séjour, quitte à revenir à la nage. Je vois bien que tu pètes un câble et que même tu ripostes. Alors fous sur le sable avant qu'un autre t'accoste. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous te sais pire que la mer à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche notre trait d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous te sais pire que la mer à boire. Pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin. Prêt à rester sur terre rien que pour sa main. Célibataire jusqu'à demain. Elle se donne un air en maillot de bain. Marinière, cherchons un marin. Prêt à rester sur terre que pour sa main. Et sur ta marinière, je cherche ta tentée d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril, nous te sais pire ta mère à boire. Ne te découpe pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Et sur ta marinière, je cherche ta tentée d'union. Tu l'as jeté à la mer pour donner à bouffer aux poissons. Ah, nos poissons d'avril. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir. Ne te découvre pas d'un fil, tu rendrais amoureux ton miroir.
À votre santé, Catherine, dans notre émission mensuelle. Aujourd'hui, le dossier, je vais vous parler un peu de la gémothérapie. Hein, je me suis inspirée des formations de mon amie Maggie Artoisenet, qui est pharmacienne et naturopathe. Hein, donc la gémothérapie ou la phytembryothérapie, c'est une méthode naturelle. Hein, utilisant les propriétés médicinales primaires des tissus embryonnaires végétaux en croissance, tels que les bourgeons, les jeunes pousses, les radicelles. Ils sont préparés à l'état frais et contiennent toute l'énergie vitale concentrée et les principes actifs nécessaires pour le développement de toutes les parties de la plante. Ils contiennent ainsi toute la puissance énergétique de la future plante et toute l'information l'information génétique. Hein. Le bourgeon est formé de cellules capables de se différencier selon les besoins. Chaque cellule peut donc redonner une plante entière et pour l'humain, on pourrait comparer ces cellules à des cellules souches. C'est pour ça que la gémothérapie agira à tous les niveaux de l'être, de façon naturelle, douce et profonde. Il est important de mentionner également l'importance de la puissance vibratoire de l'eau. Le bourgeon est essentiellement formé d'eau et la fabrication des bourgeons requiert également l'eau, utilisée comme solvant, mais aussi comme vecteur de l'information, hein, pour préparer les macérats, hein, de bourgeons. Donc l'eau, héroïne de la mémoire de l'eau du docteur Benveniste, ou même des travaux de Masaru Emoto, elle participera à la circulation de l'énergie vitale du remède et à la transmission de son signal énergétique. La gémothérapie, elle utilise exclusivement les tissus embryonnaires frais des plantes, donc comme je le disais, des arbres, des arbustes, c'est-à-dire donc les bourgeons, les jeunes pousses et les radicelles. Donc les embryons macérés dans un mélange d'eau, d'alcool et de glycérine pendant 21 jours, puis filtrés, servent à fabriquer des solutions dans lesquelles se concentrent les principes actifs des végétaux. C'est ce qu'on appelle les macéramères. Donc un peu d'historique si pour bien comprendre de où ça vient. C'est pas de maintenant, hein. De tout temps, les hommes ont connu les plantes et leurs bienfaits. Tous les peuples de l'Orient à l'Occident ont utilisé les ressources de la nature pour soulager les souffrances. La phytothérapie est vraiment la pratique la plus ancienne que l'homme ait mise au point pour gérer les déséquilibres, car ce qui nourrit l'essence de la vie animale peut aussi régénérer en cas de trouble. Les arbres sont donc des êtres essentiels de cette nature, symboles de force et de longévité. C'est au Moyen-Âge, d'ailleurs, que l'on commença à employer les bourgeons, sous l'impulsion de la philosophie alchimiste. Et sainte Hildegarde, au XIIe siècle, dans son livre « Des subtilités des créatures divines », conseillait déjà 8 bourgeons d'arbres. Hein, au XIIe siècle, notamment le bouleau, le cassis, le châtaignier, l'églantier, le frêne, le peuplier, le pommier ou bien le tilleul. Le véritable essor de la gémothérapie ou la phytembryothérapie remonte en fait à 1960 avec le docteur Paul Henry, un médecin homéopathe bruxellois qui compare les bourgeons des plantes avec des embryons. Or, il existe une similitude étonnante entre l'évolution des arbres et des arbrisseaux et l'évolution des protéines plasmatiques chez l'homme et l'animal. Il établit ainsi des corrélations entre les pathologies de ses patients et les résultats des protéines sanguines. Il développe en même temps la notion de phytosociologie végétale et par son inspiration et son approche spirituelle de la nature, sa démarche d'alchimiste, il fait de la phytembryothérapie une médecine douce, totalement holistique, énergique et spirituelle. Le docteur Max Tetto développe ensuite les aspects cliniques des bourgeons en adoptant le terme gémothérapie. Il insiste surtout sur les capacités de drainage des bourgeons. Puis le biochimiste Jean-Claude Lenis continue quant à lui à mettre au point une méthode permettant d'identifier le bourgeon adapté au profil protéique du patient. En Italie, on trouvera le docteur Fernando Pitera qui va développer la gémothérapie avec une approche anthroposophique. Et c'est en 1990 que le botaniste Philippe Andrian mit au point la préparation des macéramères de bourgeons tels qu'on les connaît aujourd'hui et qui ont permis à l'herboristerie et à la phytothérapie d'intégrer ces préparations dans leurs remèdes naturels. Enfin, ces dernières années, Stéphane Boistard développe la communication avec les êtres des forêts par l'acte sacré de la cueillette et la présence consciente auprès de l'arbre, complétant l'aspect sensible et spirituel de la gémothérapie. Donc le bourgeon est la représentation en petit de l'intégralité de la plante, le totum de la plante. Et il comporte l'intégralité des informations de la plante. C'est ainsi, par exemple, qu'en utilisant les bourgeons de tilleul, l'effet sera à la fois calmant comme les fleurs, mais aussi dépuratif comme l'aubier. Les bourgeons contiennent une grande quantité d'acide nucléique, donc des informations génétiques, mais ils renferment également de nombreux minéraux, des oligo-éléments, des vitamines, des enzymes, des facteurs de croissance ou même des hormones végétales. Donc là, on comprend bien tout l'intérêt qu'ils peuvent avoir en complément alimentaire afin de pallier à une carence. Mais il y a plus encore. La capacité qu'ont les cellules du bourgeon à se différencier selon les besoins. Par exemple, fabriquer de l'écorce ou fabriquer des feuilles, des fleurs. Et cette capacité peut aussi exercer chez l'humain ou l'animal une action de régénération anti-vieillissante, antioxydante. Et plus important encore, le méristème, le tissu cellulaire constitué de groupes de cellules embryonnaires indifférenciées du végétal et spécialisées dans la croissance. Le méristème est doué d'une intelligence végétale. Ces cellules souches sont capables de s'adapter aux conditions de vie particulières de la plante, la terre dans laquelle elle pousse, le climat, le voisinage, etc. Le méristème s'adapte. Il tient compte de son voisinage, de son environnement. Et on pense même qu'il est capable de communiquer et de prendre des décisions collectives avec ses voisins. Donc, lorsque l'on utilise la gémothérapie, on fait aussi intervenir la notion d'évolution, la notion d'adaptation. Le bourgeon donne la possibilité à chacun de réagir suivant ses capacités, d'aller puiser dans l'information indifférenciée des cellules souches des méristèmes. Mais comment relier la végétalité du bourgeon à l'homme ? Car la plante extériorise tous ses organes, les racines, feuilles, fleurs, alors que l'être humain fait l'inverse avec le processus d'intériorisation de ses fonctions et organes, système nerveux, système métabolique, etc. Il faut en chercher la raison dans l'analogie existant entre le bourgeon et l'embryon, dont la vie est également végétative. Et cette vie végétative issue de l'embryon s'exprime en dehors de la pensée. Elle est prédominante dans le sommeil ou dans le fonctionnement de l'homéostasie. Elle est inconsciente et c'est ce qui rapproche l'homme de l'arbre. C'est pourquoi le bourgeon agira sans doute lui aussi sur notre inconscient, l'aidant à surgir notamment dans les rêves ou à démêler notre essence. Il agira au plus profond de notre psyché car il porte en lui toute l'évolution de son espèce et toute l'expérience qu'il a acquise dans son environnement depuis son apparition. Chaque être humain a lui aussi une histoire qui remonte bien au-delà de sa naissance et que son ADN a intégré, mais qui reste enfoui dans son inconscient. Comme le bourgeon, l'embryon humain a en lui le savoir et le vécu des différentes générations qui pourront émerger plus tard s'il retourne à une certaine végétalité, c'est-à-dire une certaine intériorité, un retour sur soi qui constitue la vie véritable dans l'unité retrouvée. C'est sans doute un message que les bourgeons transmettent avec beaucoup de douceur et de profondeur. Alors comment on va utiliser les macères amères, les complexes de bourgeons? Eh bien je vous en parle tout de suite après une courte pause. Et tout de suite, Brigitte Palladium.
Quand tu pleures, t'as le spleen élégant, le blues enchanteur, il doit être aveugle et sourd pour être allé faire un tour. C'est pas la peine de faire semblant, je sais qu'on n'est pas des géants. Viens, moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Deux ans, on en rira. Toi et moi. Viens, je t'emmène au Palladium. On boira du rock'n'roll sur des vieux tagos. Tomber de chat, rive dans ce là, si tu chiales, je coule avec toi, bien. On danse, ça se verra moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Dans deux ans, on en rira. Toi et moi, viens, je t'en. On boira du rock'n'roll sur des vieux Italiens. Flamme éternelle, pluie violette, un gros taxi jaune avant couvert, des amours solitaires, l'oiseau noir. C'est bleu face à mon face à mer. S'il faut, je casse la gueule, je lui règle son compte. Il finira tout seul, ça ne servirait peut-être à rien. Et ça nous ferait peut-être du bien. C'est pas la peine d'être exemplaire, je sais. Pas les dernières, bien. On chante, on l'aimera moins. Comme toujours, ça passera. Ça va, ça vient, ça s'en va. Deux ans, on en rira. Toi et moi, viens, je t'emmène au Palladium.
Catherine, dans À votre santé, aujourd'hui le dossier, la gémothérapie, hein, donc l'utilisation des bourgeons pour sa santé. Alors un bourgeon, il peut s'utiliser seul ou en complexe. Hein, on utilisera au maximum 4 bourgeons ensemble. Le mieux, c'est de s'occuper d'abord du plus urgent. Alors la prise, elle se fait par voie buccale, voie orale, hein, prise directe sous la langue en le gardant quelques secondes en bouche, apporte en plus l'information vibratoire du bourgeon, mais on peut aussi le mélanger avec un peu d'eau de source, du jus de fruits, de miel et l'avaler. Hein, en général, 5 gouttes 3 fois par jour en dehors des repas, un quart d'heure avant ou après, mais ceci peut être modulé en fonction du bourgeon et de la personne. Demandez toujours conseil à votre naturopathe ou à votre pharmacien. Donc quand la situation est aiguë et qu'il faut du curatif, on peut augmenter évidemment le nombre de gouttes. Hein, de 15 à 30 ou 35 gouttes par jour sur une durée courte, hein, 10 à 15 jours. Les bourgeons, comme il s'agit de remèdes de terrain le plus souvent, on les conseille de les prendre en cure, hein, pendant 3 semaines, par exemple, avec un arrêt d'une semaine, et de continuer la cure pendant 3 mois ou plus si nécessaire. S'il faut utiliser plusieurs bourgeons complexes, on peut alterner les prises sans surcharger en information. Donc, tout le monde peut prendre des bourgeons, que ce soit des bébés, donc des enfants, des adultes, des personnes âgées. On trouvera toutefois des contre-indications, hein, même si les bourgeons présentent une bonne sécurité d'emploi, alors que les fleurs ou les feuilles d'un arbre peuvent être parfois toxiques, le bourgeon ne contient aucun dérivé toxique, hein, il contient de l'information. Donc simplement les contre-indications, comme les bourgeons contiennent, les macérats contiennent tous de l'alcool, mais en très faible quantité, hein, dans les quelques gouttes de macérat amer ingérées par jour. On va garder cependant à l'esprit toujours que ces préparations ne doivent jamais être conseillées à des personnes en cure de désintoxication alcoolique. On ne prendra pas le soir des bourgeons toniques, hein, comme le cassis ou le séquoia, et on sera toujours prudent avant de conseiller des bourgeons qui sont fluidifiants du sang. Hein, certaines personnes prennent chaque jour des médicaments anticoagulants avec lesquels les bourgeons peuvent interférer. Et on ne conseillera pas non plus de bourgeons à action hormonale à des femmes enceintes ou à des personnes ayant un cancer hormonodépendant. Donc demandez toujours l'avis de votre médecin, l'avis d'un naturopathe avant d'utiliser des macérats, des bourgeons. Alors, par exemple, les bourgeons que l'on peut conseiller, que l'on va utiliser pour les enfants, hein, ce sont le bourgeon de la croissance et le sapin. Et la défense immunitaire chez les enfants sera bien stimulée par les bourgeons de cassis ou d'églantier. Hein, le sapin, synonyme d'ossature, il sera utilisé dans tous les troubles du métabolisme minéral. Donc, il stimule les ostéoblastes et la formation des globules rouges. On l'utilisera en cas de troubles et douleurs de la croissance, troubles de la déminéralisation, des troubles osseux. Mais aussi pour les caries dentaires ou le rachitis, même si on voit moins, hein, ce cas actuellement, et le manque d'appétit chez l'enfant. Mais aussi donc le sapin contre les infections à répétition, par exemple les angines ou les rhinopharyngites chez l'enfant. Hein, il existe même un complexe fait d'églantier, cassis et sapin qui aide à renforcer les défenses du corps. Et c'est la bonne période, hein, l'automne, pour préparer ça. Et puis, au niveau du mental, le sapin, il informe le corps de la notion de verticalité et tout ce qu'elle symbolise, comme la droiture, la fidélité, l'incorruptibilité, l'honnêteté, les valeurs profondes de l'amitié. Donc pour l'enfant, le sapin, mais aussi l'églantier, hein, synonyme de protection, de l'immunité de l'enfant. L'églantier a un rôle de protection à long terme, surtout pour l'enfant qui l'aide en dynamisant le système immunitaire non spécifique, essentiellement au niveau de la sphère ORL. L'églantier aide le corps à retrouver ses forces et son action. Se marquera principalement sur les terrains carencés ou affaiblis, déminéralisés, anémies. Alors, l'enfant, les bourgeons pour les enfants, mais aussi les bourgeons pour les hommes. Et ensuite, je vous parlerai des bourgeons pour les femmes. Donc, pour les hommes, on retiendra principalement les bourgeons de chêne et de séquoia avec le romarin agissant principalement sur le foie. Donc, les bourgeons de chêne, hein, le chêne qui symbolise la force. Le bourgeon de chêne sera principalement indiqué comme tonique vitale. En cas de problème d'asthénie sexuelle ou de frigidité, des troubles de la sénescence, hein, on y ajoutera du cassis et du séquoia pour stimuler les surrénales. En cas de surménage, on ajoutera aussi du cassis ou de l'argousier. Pour les gencives sensibles ou saignantes, au bourgeon de chêne, on ajoutera du sapin ou de l'églantier. Hein, le chêne évoque la puissance de la mâchoire. En cas de dénutrition, en état de choc, on ajoutera aussi du tilleul, parfois du cornouiller. Et puis pour apporter tonus et force pendant le sport, les bourgeons de chêne et au niveau du mental, un peu comme l'huile essentielle d'angélique, il représente la force tranquille. Donc il apportera à l'homme la force de vie intérieure, la tranquillité d'esprit, il l'enracinera dans ses convictions. Le séquoia, c'est aussi un bourgeon très indiqué pour les hommes. C'est le bourgeon de l'homme d'âge mûr. Hein. Le séquoia symbolise la longévité. L'homme en pleine possession de ses moyens. On l'utilisera comme antidégénératif dans les domaines glandulaires masculins et ostéo-articulaires. Hein, donc tout ce qui est trouble glandulaire, trouble ostéo-articulaire, trouble hépatique. Hein, et on l'associera donc avec le romarin. Hein, n'oublions pas que c'est le foie qui contribue à la fabrication des hormones sexuelles. Le séquoia va chercher la lumière. Il permettra à l'humain de s'éveiller à une lumière intérieure et de la ressentir. Donc il convient aussi pour une personne ayant des difficultés à s'incarner ou à incarner les choses. Et puis donc les bourgeons pour les femmes, qu'est-ce qu'on va conseiller ? Eh bien les principaux hein, sont le framboisier, le pommier et l'érelle. On ne conseillera pas ces bourgeons en cas de cancer oestrogéno-dépendant. Hein. Bien faire attention. Alors les bourgeons pour les femmes, le framboisier, eh bien le framboisier c'est le symbole de la féminité. Hein, c'est surtout un régulateur et stimulant de la fonction ovarienne. Il stimule à la fois la sécrétion des œstrogènes et de la progestérone. Hein. Le pommier est progestéronique, l'érelle est œstrogénique. Donc le bourgeon de framboisier est le remède de la puberté, car il éveille l'ovaire, mais il peut être conseillé pour tout blocage à ce niveau. Hein, retard pubertaire, syndrome prémenstruel, problème de règles, ménopause, bouffée de chaleur, difficulté à être enceinte, il est essentiellement régulateur. Avec le romarin, il est aussi protecteur hépatique. Il calme les inflammations et aide à la désacidification du sang. Et au niveau du mental, il éveille la féminité chez la jeune fille ou chez la femme. Donc le framboisier, hein, symbole de féminité pour les femmes, et le pommier, symbole de jouvence. Le pommier est utilisé tant comme régulateur endocrinien qu'antioxydant et protecteur des vaisseaux. On va l'utiliser en cas de troubles hormonaux, troubles cérébraux, hein, antioxydants et protecteurs vasculaires. Il maintiendra la vivacité cérébrale dans les cas de difficultés de concentration, problèmes de mémoire. On l'associera au ginkgo ou séquoia d'ailleurs. En cas de troubles vasculaires, il aide à régulariser la tension, agit en cas de migraine et protège de l'artériosclérose. Et en cas de troubles nerveux, d'œdème, d'arthrose, de rhumatisme par son action anti-inflammatoire et aussi au niveau du mental bien sûr parce qu'il favorise l'éveil intérieur. Le pommier c'est un arbre compagnon qui procure apaisement, vitalité et longévité. Et puis aussi l'érelle pour les femmes, hein, l'érelle qui symbolise la lumière. Et d'ailleurs le docteur Paul Henry en disait ceci, s'il ne devait rester qu'un remède, l'érelle, ce serait celui-là. En effet, il agit contre la fibrose des tissus qui empêche la lumière de passer en s'opacifiant. L'érelle, avec la myrtille et d'autres fruits rouges, permet l'assimilation de la lumière. C'est pourquoi elle est anti-vieillissement et elle agira contre l'acidose, aura une action de réparation sur les muqueuses intestinales, pulmonaires, de relance aussi des fonctions rénales, mais aura une action également hormonale, œstrogène-like, pardon, importante. Alors c'est aussi un bourgeon que l'on va utiliser comme antioxydant, anti-vieillissement dans tous les cas de sclérose ou de dégénérescence prématurée, d'acidose, de problèmes de rhumatologie, d'arthrose, etc. Elle aide à l'assimilation du calcium au niveau intestinal. Dans les cas de troubles féminins, hein, préménopause, ménopause, ostéoporose, fibrome, l'érelle, œstrogène-like, correspond au vieillissement prématuré de la femme, alors que le framboisier est plutôt un remède d'adolescence et de femme d'âge mûr. On l'utilisera en cas de troubles intestinaux. Hein. L'érelle répare la muqueuse intestinale et stimule la flore. Elle est les régulateurs du transit. Elle est complémentaire d'ailleurs du noyer. Hein. Et comme elle agit sur les lieux de communication avec l'extérieur, elle aura aussi un impact sur les poumons en combattant la fibrose. Et puis aussi dans les troubles rénaux. Hein, comme l'érelle pousse en milieu acide, elle agira en désacidifiant le terrain. Elle va relancer les éliminations acides par le rein et la vessie. Et au niveau du mental, pour le docteur Ledoux, l'érelle est passeur de lumière. Alors bien sûr, il existe d'autres bourgeons. Hein, la nature est très riche et généreuse. Beaucoup sont à l'étude et les principaux continuent encore à nous livrer d'autres secrets. L'expérience fera de la gémothérapie une médecine douce, beaucoup plus proche de l'être et de sa vraie nature. Et ça, je vous en parlerai une autre fois. Et tout de suite dans notre émission À votre santé. Donc là, c'est la fin du dossier. Une courte pause musicale avec Christine and the Queens, Paradis perdu, avant de retrouver Samuel dans sa chronique, L'intelligence de la nature. À tout de suite. Catherine, dans À votre santé. Donc, tout de suite, on a On a parlé de la gémothérapie dans le dossier et maintenant je reçois Samuel pour l'intelligence de la nature. Bonjour Samuel. Bonjour
Catherine. Aujourd'hui je vais vous parler de l'intelligence de la nature. Donc déjà l'intelligence de la nature, ce qu'il faut regarder c'est que c'est une des 8 formes d'intelligence qui existent dans notre cerveau. Donc parmi les 8 intelligences multiples. Aussi ce qu'il faut comprendre, enfin ce qu'il faut voir, c'est que cette intelligence-là, ce qu'a découvert un chercheur en neurosciences l'année dernière, c'est que en fait c'est l'intelligence qui gouverne toutes les autres formes d'intelligence dans notre cerveau. Alors donc c'est elle vraiment qui met en lien toutes les autres formes d'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence musicale, l'intelligence interpersonnelle, sociale avec les autres, linguistique, mathématique, logique. Voilà, toutes ces formes d'intelligence, elles sont connectées avec l'intelligence de la nature. Alors du coup, il y a vraiment une raison à cela, en fait, c'est que la raison, c'est que nous sommes partie prenante de la nature, nous faisons partie de la nature et nous avons besoin d'elle pour survivre. D'accord, sans la nature, on ne pourrait pas vivre, en fait. Donc on a besoin d'elle entièrement pour notre survie. Donc quelque part, c'est une logique que l'intelligence de la nature, elle fasse partie vraiment, elle engendre toutes les autres formes d'intelligence. Sauf que la problématique aujourd'hui, c'est que on s'est rendu compte que l'homme, l'être humain à l'heure actuelle, est de plus en plus déconnecté de cette forme d'intelligence de la nature. Notamment, il y a une étude qui montre aux États-Unis que de plus en plus de gens ont ce syndrome du manque de nature. Donc du coup, la prescription pour ces personnes, c'est d'aller se ressourcer dans la nature, d'aller reprendre contact avec la nature. Alors, l'intelligence de la nature, on peut l'avoir sous plusieurs formes. On peut l'avoir sous la forme d'une manière plus scientifique, donc cette partie analytique qui va chercher à analyser les phénomènes naturels, à comprendre la nature, à travers par exemple les sciences de la vie de la Terre, la physique, chimie, donc à travers une approche très scientifique, donc on va qualifier plutôt occidentale. Et après il y a une approche plus intuitive de la nature, plus connectée à son énergie, on pourrait dire. Et donc celle-là, on va dire qu'elle nous vient vraiment des peuples anciens, des peuples d'Amérique, d'Amérique du Sud, ou même en Inde, on retrouve aussi cette culture forte de lien avec la nature. Alors, ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est pourquoi je vous fais cette capsule sur l'intelligence de la nature, c'est que, en effet, on est face à un grand défi écologique pour maintenir et préserver la vie sur la Terre. Vraiment, c'est un enjeu. C'est un enjeu très très important parce qu'on le voit, aujourd'hui les scientifiques sont d'accord pour dire que nous avons peu de temps pour réagir, pour transformer nos habitudes en lien avec la nature. Et de même, les sages des peuples anciens disent la même chose. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est que une des explications à cela de notre déconnexion à la nature, c'est que en un siècle, on est passé de 5% des 5 à 15% de la population par exemple française qui vivait en ville à aujourd'hui plus de 85% de la population qui vit en ville. Donc ce qui explique fortement donc cette déconnexion avec la nature et ce syndrome du manque de nature. Alors voilà, du coup, je voulais vous partager cela parce que je trouve que aujourd'hui, c'est important de cultiver cette intelligence de la nature. Nous devons, et c'est même un devoir en fait en tant que citoyen, redévelopper cette intelligence de la nature. Alors ça veut dire quoi, développer l'intelligence de la nature? C'est déjà dans un premier temps, ça peut être déjà passer du temps auprès d'elle, aller se ressourcer auprès de la nature, aller se balader, etc. Vraiment se nourrir de la nature. Mais une autre chose aussi, c'est vraiment prendre des décisions plus en accord avec la nature qui vont dans le respect. Par exemple, faire en sorte de ne pas polluer l'eau. L'eau est vraiment quelque chose de élémentaire et vital pour notre survie. Si on a des eaux trop polluées, nous ne pourrons pas survivre. De même que voilà, protéger les arbres, protéger, s'occuper voilà plus de la dimension écologique, donc vraiment éviter les produits qui vont être polluants, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça pour développer cette intelligence de la nature. Déjà pour soi, hein, pour se sentir bien, parce que se sentir en harmonie avec la nature, c'est un facteur de bien-être profond. Mais en plus de ça, il y a un facteur aussi collectif là, et c'est vraiment une responsabilité commune que nous avons à préserver en fait cette nature. Donc voilà, je voulais vous partager cette thématique de l'intelligence de la nature qui m'est très chère, et je crois que nous avons vraiment à développer cette intelligence de la nature. C'est un des enjeux du 21e siècle. Même c'est l'enjeu en fait fondamental, nous n'avons plus le choix que cela. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, c'était Samuel Gérant de l'art de trouver sa voie. À très bientôt.
Merci Samuel. Effectivement, hein, c'est vital. Il est vraiment, vraiment, vraiment urgent de prendre conscience de la maltraitance envers la nature. Hein, c'est une maltraitance envers nous-mêmes. Voilà, donc juste avant nous arrivons au terme de l'émission, donc juste avant de vous parler d'un ouvrage que j'ai aimé, et puis de retrouver la rubrique trucs et astuces, une dernière pause avec Zazie sur toi. À tout de suite.
J'écris ma peur, mon manque d'amour, j'écris du cœur, mais c'est toujours sur ce que je n'ai pas pu dire, pas pu vivre, pas su retenir. J'écris en vers et contre tous, c'est toujours l'enfer qui me pousse à jeter l'encre sur le papier, la faute sur ceux qui m'ont laissé. C'est toujours reculer l'instant où tout s'est écroulé. On n'écrit pas sur ce qu'on aime, sur ce qui ne pose pas problème. Voilà pourquoi je n'écris pas sur toi. Rassure-toi.
Soit parti déjà pour écrire, ne me quitte.
n'acceptent pas qu'ils ne vivent plus sous le même toit, pour qu'ils viennent lui dire qu'il s'en va. On n'écrit pas la chance qu'on a, pas de chanson d'amour quand on en a. Voilà pourquoi, mon amour, je n'écris rien sur toi. Rassure-toi.
Catherine, dans À votre santé, notre émission mensuelle autour du bien-être et de la santé au naturel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler dans J'ai aimé, un ouvrage, La psychogénéalogie de Véronique César Kortulewski aux éditions Amaris. Hein, la psychogénéalogie, ce sera l'objet d'un prochain dossier dans À votre santé. La psychogénéalogie, donc l'héritage émotionnel, le comprendre pour le gérer, comprendre sa famille et décider d'être soi, comprendre tout ce qui peut se transmettre inconsciemment de génération en génération pour lever des blocages, pour être mieux dans sa vie et éviter surtout à nos descendants de rattraper des vieilles casseroles. Voilà. Donc je vous le dis, l'émission arrive à son terme. Là, dans les trucs et astuces, renforcer son système immunitaire. Hein, c'est vraiment la période, une des périodes phares là, l'automne pour préparer l'hiver. Donc renforcer son système immunitaire. Eh bien, on peut le faire avec l'échinacée. C'est une plante d'une cinquantaine de centimètres de haut, hein, qui donne des fleurs blanches, roses ou même pourpres. Et c'est surtout la racine de la plante qui renferme les substances actives, mais elles sont aussi également présentes dans les parties aériennes, hein, comme les fleurs, les feuilles ou la tige. L'échinacée, elle est originaire d'Amérique du Nord et plus particulièrement de l'Ohio, mais il est tout à fait possible de la cultiver en Europe au jardin. Donc l'échinacée stimule le système immunitaire, notamment les macrophages et les cellules NK, Natural Killer, qui sont chargés de détruire les micro-organismes indésirables. Cette plante, l'échinacée, soutient l'organisme dans la lutte contre certaines infections d'origine bactérienne, hein, comme les infections urinaires par exemple, fongiques, notamment dans le cadre d'infections vaginales ou virales, hein, l'herpès, la grippe. L'échinacée fait partie des compléments alimentaires à privilégier pour aborder l'hiver en toute sérénité et limiter les infections, notamment respiratoires. Donc cette plante est très utilisée par tous ceux qui souhaitent renforcer leur organisme, pardon, et ainsi éviter la prise d'antibiotiques. Donc faites-en une cure à l'approche de l'automne et de l'hiver, donc maintenant, lorsque rhume, bronchite, angine et grippe sont de retour. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. À votre santé, hein, notre émission mensuelle autour de la santé. Vous pouvez nous retrouver en podcast sur CFM. Voilà, donc des invités, des chroniques, des recettes, de la bonne humeur, toujours et encore. Voilà, continuez à écouter CFM, mais surtout restez à l'écoute de vous-même. À très bientôt. Bye bye. Thank you.
Thank you.